Amélie Nothomb, stupeur et tremblement. Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omochi. Qui était le supérieur de Monsieur Saito? Qui était le supérieur de Mademoiselle Mori? Qui était ma supérieure? Et moi, je n'étais la supérieure de personne. On pourrait dire les choses autrement. J'étais aux ordres de Mademoiselle Mori, qui était aux ordres de Monsieur Saito, et ainsi de suite, avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. Donc, dans la compagnie Yumimoto, j'étais aux ordres de tout le monde. Le 8 janvier 1990, l'ascenseur me cracha au dernier étage de l'immeuble Yumimoto. La fenêtre au bout du hall m'aspira comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion. Loin, très loin, il y avait la ville, si loin que je doutais d'y avoir jamais mis les pieds. Je ne songeais même pas qu'il eût fallu me présenter à la réception. En vérité, il n'y avait dans ma tête aucune pensée, rien que la fascination pour le vide, par la baie vitrée. Une voix rauque finit par prononcer mon nom derrière moi. Je me retournai. Un homme d'une cinquantaine d'années, petit, maigre et laid, me regardait avec mécontentement.
« Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée ?» me demanda-t-il.
Je ne trouvai rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, sans avoir prononcé un seul mot, j'avais déjà produit une mauvaise impression le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto. L'homme me dit qu'il s'appelait Monsieur Saito. Il me conduisit à travers d'innombrables et immenses salles dans lesquelles il me présenta des hordes de gens dont j'oubliais les noms au fur et à mesure qu'il les énonçait. Il m'introduisit ensuite dans le bureau où siégeait son supérieur, Monsieur Omochi, qui était énorme et effrayant, ce qui prouvait qu'il était le vice-président. Puis, il me montra une porte et m'annonça d'un air solennel que derrière elle, il y avait Monsieur Haneda, le président. Il allait de soi qu'il ne fallait pas songer à le rencontrer. Enfin, il me guida jusqu'à une salle gigantesque dans laquelle travaillaient une quarantaine de personnes. Il me désigna ma place, qui était juste en face de celle de ma supérieure directe, Mademoiselle Mori. Cette dernière était en réunion et me rejoindrait en début d'après-midi. Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée, après quoi il me demanda si j'aimais les défis. Il était clair que je n'avais pas le droit de répondre par la négative. « Oui, dis-je. » Ce fut le premier mot que je prononçai dans la compagnie. Jusque-là, je m'étais contentée d'incliner la tête. Le « défi » que me proposa M. Saito consistait à accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson à jouer au golf avec lui le dimanche suivant. Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. « Qui est Adam Johnson ?» eus-je la sottise de demander. Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. Était-il aberrant d'ignorer qui était M. Johnson ou alors ma question était-elle indiscrète? Je ne le suis jamais et ne suis jamais qui était Adam Johnson. L'exercice me parut facile. Je m'assis et écrivis une lettre cordiale. M. Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf le dimanche suivant avec M. Johnson et lui envoyait ses amitiés. Je l'apportai à mon supérieur. Monsieur Saito lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez. Je pensais que j'avais été trop aimable ou familière avec Adam Johnson et je rédigeais un texte froid et distant. Monsieur Saito prenait acte de la décision de Monsieur Johnson et conformément à ses volontés jouerait au golf avec lui. Mon supérieur lut mon travail, poussa un petit cri méprisant et le déchira. Recommencez. J'ai envie de demander où était mon erreur. Mais il était clair que mon chef ne tolérait pas les questions, comme l'avait prouvé sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire. Il fallait donc que je trouve par moi-même quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives à ce joueur de golf. Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain. Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un côté « belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour » qui ne manquait pas de sel. J'explorais des catégories grammaticales en mutation. Et si Adam Johnson devenait le verbe, dimanche prochain le sujet, jouer au golf le complément d'objet et M. Saito l'adverbe? Dimanche prochain accepte avec joie de venir Adam Johnsonner à jouer au golf M. Saitoman. Et pan dans l'œil d'Aristote. Je commençais à m'amuser quand mon supérieur m'interrompit. Il déchira la énième lettre sans même la lire et me dit que Mademoiselle Maury était arrivée.
« Vous travaillerez avec elle cet après-midi. Entre-temps, allez me chercher un café. »
Il était déjà 14 heures. Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbée que je n'avais pas songé à faire la moindre pause. Je posais la tasse sur le bureau de M. Saito et me retournais. Une fille haute et longue, comme un arc, marcha vers moi. Toujours, quand je repense à Fubuki, je revois l'arc nippon, plus grand qu'un homme. C'est pourquoi j'ai baptisé la compagnie Yumimoto, c'est-à-dire les choses de l'arc. Et quand je vois un arc, toujours, je repense à Fubuki, plus grande qu'un homme. Mademoiselle Maury, appelez-moi Fubuki. Je n'écoutais plus ce qu'elle me disait. Mademoiselle Maury mesurait au moins 1m80, taille que peu d'hommes japonais atteignent. Elle était svelte et gracieuse à ravir, malgré la raideur nippone à laquelle elle devait sacrifier. Mais ce qui me pétrifiait, c'était la splendeur de son visage. Elle me parlait, j'entendais le son de sa voix douce et pleine d'intelligence. Elle me montrait des dossiers, m'expliquait de quoi il s'agissait, elle souriait, je ne m'apercevais pas que je ne l'écoutais pas. Ensuite, elle m'invita à lire les documents qu'elle avait préparés sur mon bureau qui faisait face au sien. Elle s'assit et commença à travailler. Je feuilletais docilement les paperasses qu'elle m'avait données à méditer. Il s'agissait de règlements, d'énumérations. 2 mètres devant moi, le spectacle de son visage était captivant. Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. Elle avait le plus beau nez du monde, le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. Tous les nippons n'ont pas ce nez, mais si quelqu'un a ce nez, il ne peut être que d'origine nippone. Si Cléopâtre avait eu ce nez, la géographie de la planète en eût pris un sacré coup. Le soir, il eût fallu être mesquine pour songer qu'aucune des compétences pour lesquelles on m'avait engagée ne m'avait servi. Après tout, ce que j'avais voulu, c'était travailler dans une entreprise japonaise. J'y étais. J'avais eu l'impression de passer une excellente journée. Les jours qui suivirent confirmèrent cette impression. Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle dans cette entreprise. Cela m'indifférait. Monsieur Saito semblait me trouver consternante, cela m'indifférait plus encore. J'étais enchantée de ma collègue. Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante pour passer 10 heures par jour au sein de la compagnie Yumimoto. Son teint, à la fois blanc et mat, était celui dont parle si bien Tanizaki. Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone, à la stupéfiante exception de sa taille. Son visage l'apparentait à l'œillet du vieux Japon, symbole de la noble fille du temps jadis. Posé sur cette silhouette immense, il était destiné à dominer le monde. Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies de l'univers. Monsieur Haneda en dirigeait la section import-export, qui achetait et vendait tout ce qui existait à travers la planète entière. Le catalogue import-export de Yumimoto était la version titanesque de celui de Prévert. Depuis l'emmental finlandais jusqu'à la soude singapourienne, en passant par la fibre optique canadienne, le pneu français et le jute togolais, rien n'y échappait. L'argent, chez Yumimoto, dépassait l'entendement humain. À partir d'une certaine accumulation de zéros, les montants quittaient le domaine des nombres pour entrer dans celui de l'art abstrait. Je me demandais s'il existait, au sein de la compagnie, un être capable de se réjouir d'avoir gagné 100 millions de yens ou de déplorer la perte d'une somme équivalente. Les employés de Yumimoto, comme les héros, ne prenaient leur valeur que derrière les autres chiffres. Tous, sauf moi, qui n'atteignais même pas le pouvoir du zéro. Les jours s'écoulaient et je ne servais toujours à rien. Cela ne me dérangeait pas outre mesure. J'avais l'impression que l'on m'avait oublié, ce qui n'était pas désagréable. Assise à mon bureau, je lisais et relisais les documents que Fubuki avait mis à ma disposition. Ils étaient prodigieusement inintéressants, à l'exception de l'un d'entre eux qui répertoriait les membres de la compagnie Yumimoto. Y étaient inscrits leur nom, prénom, date et lieu de naissance, le nom du conjoint éventuel et des enfants, avec pour chacun la date de naissance. En soi, ces renseignements n'avaient rien de fascinant, mais quand on a très faim, un croûton de pain devient alléchant. Dans l'état de désœuvrement et d'inanition où mon cerveau se trouvait, cette liste me parut croustillante comme un magazine à scandale. En vérité, c'était la seule paperasse que je comprenais. Pour avoir l'air de travailler, je décidai de la prendre par cœur. Il y avait une centaine de noms. La plupart étaient mariés et père ou mère de famille, ce qui rendait ma tâche plus difficile. J'étudiais. Ma figure était tour à tour penchée sur la matière, puis relevée, pour que je récite à l'intérieur de ma boîte noire. Quand je redressais la tête, mon regard tombait toujours sur le visage de Fubuki, assise face à moi. Monsieur Saito ne me demandait plus d'écrire des lettres à Adam Johnson, ni à personne d'autre. D'ailleurs, il ne me demandait rien, sauf de lui apporter des tasses de café. Rien n'était plus normal, quand on débutait dans une compagnie nippone, que de commencer par l'Oshakumi, la fonction de l'honorable T. Je pris ce rôle d'autant plus au sérieux que c'était le seul qui m'était dévolu. Très vite, je connus les habitudes de chacun. Pour Monsieur Saito, dès 8h30, un café noir. Pour Monsieur Onagi, un café au lait de sucre à 10h. Pour Monsieur Mizuno, un gobelet de coca par heure. Pour Monsieur Okada, à 17h, un thé anglais avec un nuage de lait. Pour Fubuki, un thé vert à 9h, un café noir à 12h, un thé vert à 15h et un dernier café noir à 19h. Elle me remercia chaque fois avec une politesse charmante. Cette humble tâche se révéla le premier instrument de ma perte. Un matin, M. Saito me signala que le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation d'une firme amie.
« Café pour 20 personnes !»
J'entrai chez M. Omoshi avec mon grand plateau et je fus plus que parfaite. Je servis chaque tasse avec une humilité appuyée, psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage, baissant les yeux et m'inclinant. S'il existait un ordre du mérite de l'Oshakumi, il eût dû m'être décerné. Plusieurs heures après, la délégation s'en alla. La voix tonitruante de l'énorme Monsieur Omoshi cria
« Saito-san !»
Je vis Monsieur Saito se lever d'un bond, devenir livide et courir dans l'antre du vice-président. Les hurlements de l'obèse résonnèrent derrière le mur. On ne comprenait pas ce qu'il disait, mais cela n'avait pas l'air gentil. Monsieur Saito revint, le visage décomposé. Je ressentis pour lui une sotte bouffée de tendresse en pensant qu'il pesait le tiers de son agresseur. Ce fut alors qu'il m'appela sur un ton furieux. Je le suivis jusqu'à un bureau vide. Il me parla avec une colère qui le rendait bègue. « Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme Ami. Vous avez servi le café avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais à la perfection. »« Mais je ne le parle pas si mal, Saito-san. » « Taisez-vous. De quel droit vous défendez-vous? Monsieur Omoshi est très fâché contre vous. Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin. Comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance avec une blanche qui comprenait leur langue? À partir de maintenant, vous ne parlez plus japonais. » Je le regardais avec des yeux ronds. « Pardon? Vous ne connaissez plus le japonais. C'est clair? Enfin... c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagé. Cela m'est égal. Je vous donne l'ordre de ne plus comprendre le japonais. » C'est impossible. Personne ne peut obéir à un ordre pareil. Il y a toujours moyen d'obéir. C'est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre. Nous y voici, pensais-je, avant de reprendre. Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer à oublier une langue. Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. Cet argument extravagant parut recevable à M. Saito. « Essayez quand même. Au moins faites semblant. J'ai reçu des ordres à votre sujet. Est-ce que c'est entendu ?» Le ton était sec et cassant. Quand je rejoignis mon bureau, je devais tirer une drôle de tête, car Fubuki eut pour moi un regard doux et inquiet. Je restais longtemps prostré, à me demander quelle attitude adopter. Présenter ma démission eût été le plus logique. Pourtant, je ne pouvais me résoudre à cette idée. Aux yeux d'un occidental, ce n'eût rien eu d'infamant, aux yeux d'un Japonais, c'eût été perdre la face. J'étais dans la compagnie depuis un mois à peine. Or, j'avais signé un contrat d'un an. Partir après si peu de temps m'eût couverte d'opprobre, à leurs yeux comme aux miens. D'autant que je n'avais aucune envie de m'en aller. Je m'étais quand même donné du mal pour entrer dans cette compagnie. J'avais étudié la langue tokyoïte des affaires. J'avais passé des tests. Certes, je n'avais jamais eu l'ambition de devenir un foudre de guerre du commerce international. Mais j'avais toujours éprouvé le désir de vivre dans ce pays auquel je vouais un culte depuis les premiers souvenirs idylliques que j'avais gardés de ma petite enfance. Je resterai. Par conséquent, je devais trouver un moyen d'obéir à l'ordre de M. Saito. Je sondais mon cerveau à la recherche d'une couche géologique propice à l'amnésie. Y avait-il des oubliettes dans ma forteresse neuronale? Hélas, l'édifice comportait des points forts et des points faibles, des échauguettes et des fissures, des trous et des douves, mais rien qui permît d'y ensevelir une langue que j'entendais parler sans cesse. À défaut de pouvoir l'oublier, pouvais-je du moins la dissimuler? Si le langage était une forêt, m'était-il possible de cacher derrière les hêtres français, les tilleuls anglais, les chênes latins et les oliviers grecs, l'immensité des cryptomères nippons, qui en l'occurrence eussent été bien nommés? Mori, le patronyme de Fubuki, signifiait forêt. Fût-ce pour cette raison qu'à cet instant, je posais sur elle des yeux désemparés. Je m'aperçus qu'elle me regardait toujours, l'air interrogateur. Elle se leva et me fit signe de la suivre. À la cuisine, je m'effondrai sur une chaise. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» me demanda-t-elle. Je vidais mon cœur. Je parlais d'une voix convulsive, j'étais au bord des larmes. Je ne parvins plus à retenir des paroles dangereuses. « Je hais M. Saito, c'est un salaud et un imbécile !» Fubuki eut un petit sourire. « Non, vous vous trompez. Évidemment, vous êtes gentille, vous ne voyez pas le mal. » Enfin, pour me donner un ordre pareil, ne faut-il pas être un... Calmez-vous. L'ordre ne venait pas de lui. Il transmettait les instructions de M. Omochi. Il n'avait pas le choix. En ce cas, c'est M. Omochi qui est un... C'est quelqu'un de très spécial, me coupa-t-elle. Que voulez-vous? C'est le vice-président, nous n'y pouvons rien. Je pourrais en parler au président, M. Haneda. Quel genre d'homme est-il? M. Haneda est un homme remarquable. Il est très intelligent et très bon. Hélas, il est hors de question que vous alliez vous plaindre à lui. Elle avait raison, je le savais. Il eût été inconcevable en amont de sauter même un seul échelon hiérarchique, a fortiori d'en sauter autant. Je n'avais le droit de m'adresser qu'à mon supérieur direct, qui se trouvait être Mademoiselle Mori. Vous êtes mon seul recours, Fubuki. Je sais que vous ne pouvez pas grand-chose pour moi, mais je vous remercie. Votre simple humanité me fait tant de bien. Elle sourit. Je lui demandai quel était l'idéogramme de son prénom. Elle me montra sa carte de visite. Je regardai les kanji et m'exclamai. « Tempête de neige ! Fubuki signifie tempête de neige. C'est trop beau de s'appeler comme ça. » Je suis née lors d'une tempête de neige. Mes parents y ont vu un signe. La liste Yumimoto me repassa dans la tête. Mori Fubuki, née à Nara, le 18 janvier 1961. Elle était une enfant de l'hiver. J'imaginais soudain cette tempête de neige sur la sublime ville de Nara, sur ses cloches innombrables. N'était-il pas normal que cette superbe jeune femme fût née le jour où la beauté du ciel s'abattait sur la beauté de la terre? Elle me parla de son enfance de le Kansai. Je lui parlais de la mienne qui avait commencé dans la même province, non loin de Nara, au village de Shukugawa, près du mont Kabuto, et l'évocation de ces lieux mythologiques me mettait les larmes aux yeux. Comme je suis heureuse que nous soyons toutes les deux des enfants du Kansai, c'est là que bat le cœur du vieux Japon. C'était là aussi que battait mon cœur depuis ce jour où, à l'âge de 5 ans, j'avais quitté les montagnes nippones pour le désert chinois. Ce premier exil m'avait tant marqué que je me sentais capable de tout accepter afin d'être réincorporée à ce pays dont je m'étais si longtemps crue originaire. Quand nous retournâmes à nos bureaux qui se faisaient face, je n'avais trouvé aucune solution à mon problème. Je savais moins que jamais quelle était, quelle serait ma place dans la compagnie Yumimoto. Mais je ressentais un grand apaisement parce que j'étais la collègue de Fubuki Mori. Il fallait donc que j'aie l'air de m'occuper, sans pour autant sembler comprendre un mot de ce qui se disait autour de moi. Désormais, je servais les diverses tasses de thé et de café sans l'ombre d'une formule de politesse et sans répondre aux remerciements des cadres. Ceux-ci n'étaient pas au courant de mes nouvelles instructions et s'étonnaient que l'aimable geisha blanche se soit transformée en une carpe grossière comme une yankee. L'oshakumi ne me prenait hélas pas beaucoup de temps. Je décidai, sans demander l'avis de personne, de distribuer le courrier. Il s'agissait de pousser un énorme chariot métallique à travers les nombreux bureaux géants et de donner à chacun ses lettres. Ce travail me convenait à merveille. D'abord, il utilisait ma compétence linguistique, puisque la plupart des adresses étaient libellées en idéogrammes. Quand M. Saito était très loin de moi, je ne cachais pas que je connaissais le nippon. Ensuite, je découvrais que je n'avais pas étudié par cœur la liste Yumimoto pour rien. Je pouvais non seulement identifier les moindres des employés, mais aussi profiter de ma tâche pour, le cas échéant, leur souhaiter un excellent anniversaire, à eux ou à leur épouse ou progéniture. Avec un sourire et une courbette, je disais « Voici votre courrier, Monsieur Shiranai. Un bon anniversaire à votre petit Yoshiro, qui a 3 ans aujourd'hui. » Ce qui me valait à chaque fois un regard stupéfait. Cet emploi me prenait d'autant plus de temps qu'il me fallait circuler à travers la compagnie entière qui s'étalait sur 2 étages. Avec mon chariot, qui me donnait une contenance agréable, je ne cessais d'emprunter l'ascenseur. J'aimais cela car, juste à côté, à l'endroit où je l'attendais, il y avait une immense baie vitrée. Je jouais alors à ce que j'appelais « me jeter dans la vue ». Je collais mon nez à la fenêtre et me laissais tomber mentalement. La ville était si loin en dessous de moi. Avant que je ne m'écrase sur le sol, il m'était loisible de regarder tant de choses. J'avais trouvé ma vocation. Mon esprit s'épanouissait dans ce travail simple, utile, humain et propice à la contemplation. J'aurais aimé faire cela toute ma vie. Monsieur Saito me manda à son bureau. J'eus droit à un savon mérité. Je m'étais rendu coupable du grave crime d'initiative. Je m'étais attribué une fonction sans demander la permission de mes supérieurs directs. En plus, le véritable postier de l'entreprise qui arrivait l'après-midi était au bord de la crise de nerfs car il se croyait sur le point d'être licencié. « Voler son travail à quelqu'un est une très mauvaise action », me dit avec raison Monsieur Saito. J'étais désolée de voir s'interrompre aussi vite une carrière prometteuse. En outre, se posait à nouveau le problème de mon activité. J'eus une idée qui parut lumineuse à ma naïveté. Au cours de mes déambulations à travers l'entreprise, j'avais remarqué que chaque bureau comportait de nombreux calendriers qui n'étaient presque jamais à jour, soit que le petit cadre rouge et mobile n'eût pas été avancé à la bonne date, soit que la page du mois n'eût pas été tournée. Cette fois, je n'oubliais pas de demander la permission. « Puis-je mettre les calendriers à jour, Monsieur Saito ?» Il me répondit oui, sans y prendre garde. Je considérais que j'avais un métier. Le matin, je passais dans chaque bureau et je déplaçais le petit cadre rouge jusqu'à la date idoine. J'avais un poste, j'étais avanceuse tourneuse de calendrier. Peu à peu, les membres de Yumimoto s'aperçurent de mon manège. Ils en conçurent une hilarité grandissante. On me demandait « Ça va? Vous ne vous fatiguez pas trop à cet épuisant exercice ?» Je répondais en souriant « C'est terrible. Je prends des vitamines. » J'aimais mon labeur. Il avait l'inconvénient d'occuper trop peu de temps, mais il me permettait d'emprunter l'ascenseur et donc de me jeter dans la vue. En plus, il divertissait mon public. À cet égard, le sommet fut atteint quand on passa du mois de février au mois de mars. Avancer le cadre rouge ne suffisait pas ce jour-là. Il me fallait tourner, voire arracher la page de février. Les employés des divers bureaux m'accueillirent comme on accueille un sportif. J'assassinais les mois de février avec de grands gestes de samouraï, mimant une lutte sans merci contre la photo géante du mont Fuji enneigé qui illustrait cette période dans le calendrier Yumimoto. Puis je quittais les lieux du combat, l'air épuisé, avec des fiertés sobres de guerriers victorieux, sous les banzaïs des commentateurs enchantés. La rumeur de ma gloire atteignit les oreilles de M. Saito. Je m'attendais à recevoir un savon magistral pour avoir fait le pitre. Aussi avais-je préparé ma défense. « Vous m'aviez autorisé à mettre à jour les calendriers, commençai-je avant même d'avoir essuyé ses fureurs. Il me répondit sans aucune colère, sur le ton de simple mécontentement qui lui était habituel. « Oui, vous pouvez continuer. Mais ne vous donnez plus en spectacle, vous déconcentrez les employés. » Je fus étonnée de la légèreté de la réprimande. Monsieur Saito reprit. « Photocopiez-moi ça. » Il me tendit une énorme liasse de pages au format A4. Il devait y en avoir un millier. Je livrai le paquet à l'avaleuse de la photocopieuse qui effectua sa tâche avec une rapidité et une courtoisie exemplaires. J'apportai à mon supérieur l'original et les copies. Il me rappela. « Vos photocopies sont légèrement décentrées, » dit-il en me montrant une feuille. « Recommencez. » Je retournai à la photocopieuse en pensant que j'avais du mal placer les pages dans la valeuse. J'y accordai cette fois un soin extrême. Le résultat fut impeccable. Je rapportai mon œuvre à M. Saito. « Elles sont de nouveau décentrées, » me dit-il. « Ce n'est pas vrai, » m'exclamai-je. « C'est terriblement grossier de dire cela à un supérieur. »« Pardonnez-moi, mais j'ai veillé à ce que mes photocopies soient parfaites. Elles ne le sont pas. Regardez. » Il me montra une feuille qui me parut irréprochable. « Où est le défaut ?»« Là. Voyez, le parallélisme avec le bord n'est pas absolu. »« Vous trouvez ?»« Puisque je vous le dis. » Il jeta la liasse à la poubelle et reprit. « Vous travaillez à la valeuse ?»« En effet. » « Voilà l'explication. Il ne faut pas se servir de la valeuse. Elle n'est pas assez précise. »« Monsieur Saito, sans la valeuse, il me faudrait des heures pour en venir à bout. »« Où est le problème ?» sourit-il. « Vous manquiez justement d'occupation. » Je compris que c'était mon châtiment pour l'affaire des calendriers. Je m'installai à la photocopieuse comme aux galères. À chaque fois, je devais soulever le battant, placer la page avec minutie, appuyer sur la touche, puis examiner le résultat. Il était 15 heures quand j'étais arrivée à mon ergastule. À 19 heures, je n'avais pas encore fini. Les employés passaient de temps en temps. S'ils avaient plus de 10 copies à effectuer, je leur demandais humblement de consentir à utiliser la machine située à l'autre bout du couloir. Je jetai un œil sur le contenu de ce que je photocopiais. Je crus mourir de rire en constatant qu'il s'agissait du règlement du club de golf dont M. Saito était l'affilié. L'instant d'après, j'eus plutôt envie de pleurer à l'idée des pauvres arbres innocents que mon supérieur gaspillait pour me châtier. J'imaginais les forêts du Japon de mon enfance, érables, cryptomères, ginkgo, rasées à seule fin de punir un être aussi insignifiant que moi. Et je me rappelais que le nom de famille de Fubuki signifiait « forêt ». Arriva alors M. Tenshi, qui dirigeait la section des produits laitiers. Il avait le même grade que M. Saito, qui, lui, était directeur de la section comptabilité générale. Je le regardais avec étonnement. Un cadre de son importance, ne déléguait-il pas quelqu'un pour faire ses photocopies? Il répondit à ma question muette. « Il est 20 heures. Je suis l'unique membre de mon bureau à travailler encore. Dites-moi, pourquoi n'utilisez-vous pas la valeuse ?» Je lui expliquai avec un humble sourire qu'il s'agissait des instructions expresses de M. Saito. « Je vois, » dit-il d'une voix pleine de sous-entendus. Il parut réfléchir, puis il me demanda. « Vous êtes belge, n'est-ce pas ?»« Oui. » »« Ça tombe bien. J'ai un projet très intéressant avec votre pays. Accepteriez-vous de vous livrer pour moi à une étude ?» Je le regardais comme on regarde le Messie. Il m'expliqua qu'une coopérative belge avait développé un nouveau procédé pour enlever les matières grasses du beurre. « Je crois au beurre allégé, » dit-il. « C'est l'avenir. » Je m'inventais sur le champ une opinion. Je l'ai toujours pensé. « Venez me voir demain dans mon bureau. » J'achevais mes photocopies dans un état second. Une grande carrière s'ouvrait devant moi. Je posais la liasse de feuilles A4 sur la table de M. Saito et m'en allais. Triomphante. Le lendemain, quand j'arrivais à la compagnie Yumimoto, Fubuki me dit d'un air apeuré « Monsieur Saito veut que vous recommenciez les photocopies. Il les trouve décentrées. » J'éclatai de rire et j'expliquai à ma collègue le petit jeu auquel notre chef semblait s'adonner avec moi. Je suis sûre qu'il n'a même pas regardé mes nouvelles photocopies. Je les ai faites une par une, calibrées au millimètre près. Je ne sais pas combien d'heures cela m'a pris. tout ça pour le règlement de son club de golf. Fubuki compatit avec une douceur indignée. Il vous torture. Je la réconfortais. Ne vous inquiétez pas. Il m'amuse. Je retournai à la photocopieuse, que je commençais à connaître très bien, et confiai le travail à la valeuse. J'étais persuadée que M. Saito clamerait son verdict sans le moindre regard pour mon travail. J'eus un sourire ému en pensant à Fubuki. Elle est si gentille. Heureusement qu'elle est là. Au fond, la nouvelle parade de M. Saito tombait à point. La veille, j'avais passé plus de 7 heures à effectuer une par une les 1000 photocopies. Cela me donnait un alibi excellent pour les heures que je passerais aujourd'hui dans le bureau de M. Tenshi. La valeuse acheva ma tâche en une dizaine de minutes. J'emportai l'alias et je filai à la section des produits laitiers. M. Tenshi me confia les coordonnées de la coopérative belge. J'aurais besoin d'un rapport complet, le plus détaillé possible, sur ce nouveau beurre allégé. Vous pouvez vous asseoir au bureau de M. Saitama, il est en voyage d'affaires. Tenshi signifie « ange ». Je pensais que M. Tenshi portait son nom à merveille. Non seulement il m'accordait ma chance, mais en plus, il ne me donnait aucune instruction. Il me laissait donc carte blanche, ce qui, au Japon, est exceptionnel. Et il avait pris cette initiative sans demander l'avis de personne. C'était un gros risque pour lui. J'en étais consciente. En conséquence, je ressentis d'emblée pour M. Tenshi un dévouement sans borne, le dévouement que tout Japonais doit à son chef et que j'avais été incapable de concevoir à l'endroit de M. Saito et de M. Omoshi. M. Tenshi était soudain devenu mon commandant, mon capitaine de guerre. J'étais prête à me battre pour lui jusqu'au bout, comme un samouraï. Je me jetais dans le combat du beurre allégé. Le décalage horaire ne permettait pas de téléphoner aussitôt en Belgique. Je commençais donc par une enquête auprès des centres de consommation Nippon et autres ministères de la Santé pour savoir comment évoluaient les habitudes alimentaires de la population vis-à-vis du beurre et quelles influences ces changements avaient sur les taux de cholestérol nationaux. Il en ressortit que le Japonais mangeait de plus en plus de beurre et que l'obésité et les maladies cardiovasculaires ne cessaient de gagner du terrain au pays du soleil levant. Quand l'heure me le permit, j'appelai la petite coopérative belge. Au bout du fil, le gros accent du terroir m'émut comme jamais. Mon compatriote, flatté d'avoir le Japon en ligne, se montra d'une compétence parfaite. 10 minutes plus tard, je recevais 20 pages de fax exposant en français le nouveau procédé d'allègement du beurre dont la coopérative détenait les droits. Je rédigeais le rapport du siècle. Cela débutait par une étude de marché. Consommation du beurre chez les Nippons, évolution depuis 1950, évolution parallèle des troubles de santé liés à l'absorption excessive de graisse butyrique. Ensuite, je décrivais les anciens procédés d'allègement du beurre, la nouvelle technique belge, ses avantages considérables, etc. Comme je devais écrire cela en anglais, j'emportais du travail chez moi. J'avais besoin de mon dictionnaire pour les termes scientifiques. Je ne dormis pas de la nuit. Le lendemain, j'arrivais chez Yumimoto avec 2 heures d'avance pour dactylographier le rapport et le remettre à M. Tenshi sans pour autant être en retard à mon poste au bureau de M. Saito. Celui-ci m'appela aussitôt. « J'ai inspecté les photocopies que vous avez laissées hier soir sur ma table. Vous êtes en progrès, mais ce n'est pas encore la perfection. Recommencez. » Et il jeta l'alias à la poubelle. Je courbais la tête et m'exécutais. J'avais du mal à m'empêcher de rire. M. Tenshi vint me rejoindre près de la photocopieuse. Il me félicita avec toute la chaleur que lui permettait sa politesse et sa réserve respectueuse. « Votre rapport est excellent. » Et vous l'avez rédigé à une vitesse extraordinaire. Voulez-vous que je signale en réunion qui en est l'auteur ? C'était un homme d'une générosité rare. Il eût été disposé à commettre une faute professionnelle si je le lui avais demandé. Surtout pas, monsieur Tenshi. Cela vous nuirait autant qu'à moi. Vous avez raison. Cependant, je pourrais suggérer à messieurs Saito et Omoshi, lors des prochaines réunions, que vous me seriez utile. Croyez-vous que monsieur Saito s'en formaliserait ? Au contraire, regardez les paquets de photocopies superflues qu'il me commande de faire, histoire de m'éloigner le plus longtemps possible de son bureau. Il est clair qu'il cherche à se débarrasser de moi. Il sera enchanté que vous lui en fournissiez l'occasion. Il ne peut plus me supporter. Vous ne serez donc pas froissé si je m'attribue la paternité de votre rapport. » J'étais berluée de son attitude. Il n'était pas tenu d'avoir de tels égards pour le sous-fifre que j'étais. « Voyons, monsieur Tenchi, c'est un grand honneur pour moi que vous souhaitiez vous l'attribuer. » Nous nous quittâmes en haute estime mutuelle. J'envisageais l'avenir avec confiance. Bientôt, s'en serait fini des brimades absurdes de M. Saito, de la photocopieuse et de l'interdiction de parler ma deuxième langue. Un drame éclata quelques jours plus tard. Je fus convoquée dans le bureau de M. Omochi. Je m'y rendis sans la moindre appréhension, ignorant ce qu'il me voulait. Quand je pénétrai dans l'antre du vice-président, je vis M. Tenchi assis sur une chaise. Il tourna vers moi son visage et me sourit. Ce fut le sourire le plus rempli d'humanité qu'il m'ait été donné de connaître. Il y était écrit « Nous allons vivre une épreuve abominable, mais nous allons la vivre ensemble. » Je croyais savoir ce qu'était une engueulade. Ce que je subis me révéla mon ignorance. M. Tenchi et moi reçûmes des hurlements insensés. Je me demande encore ce qui était le pire, le fond ou la forme. Le fond était incroyablement insultant. Mon compagnon d'infortune et moi nous fîmes traiter de tous les noms. Nous étions des traîtres, des nullités, des serpents, des fourbes et sommet de l'injure, des individualistes. La forme expliquait de nombreux aspects de l'histoire nippone. Pour que ces cris odieux s'arrêtent, j'aurais été capable du pire, d'envahir la Mandchourie, de persécuter des milliers de Chinois, de me suicider au nom de l'empereur, de jeter mon avion sur un cuirassé américain, peut-être même de travailler pour deux compagnies Yumimoto. Le plus insupportable, c'était de voir mon bienfaiteur humilié par ma faute. M. Tenchi était un homme intelligent et consciencieux. Il avait pris un gros risque pour moi, en pleine connaissance de cause. Aucun intérêt personnel n'avait guidé sa démarche. Il avait agi par simple altruisme. En récompense de sa bonté, on le traînait dans la boue. J'essayais de prendre exemple sur lui. Il baissait la tête et courbait régulièrement les épaules. Son visage exprimait la soumission et la honte. Je l'imitais. Mais vint un moment où l'obèse lui dit « Vous n'avez jamais eu d'autre but que de saboter la compagnie. » Les choses se passèrent très vite dans ma tête. Il ne fallait pas que cet incident compromette l'avancement ultérieur de mon ange gardien. Je me jetais sous le flot grondant des cris du vice-président. « Monsieur Tenchi n'a pas voulu saboter la compagnie. C'est moi qui l'ai supplié de me confier un dossier. Je suis l'unique responsable. » J'eus juste le temps de voir le regard effaré de mon compagnon d'infortune se tourner vers moi. Dans ses yeux, je lus « Taisez-vous, par pitié !» Hélas, trop tard. Monsieur Omochi resta un instant bouche bée avant de s'approcher de moi et de me hurler en pleine figure. « Vous osez vous défendre ? Non, au contraire, je m'accable. Je prends tous les torts sur moi. C'est moi et moi seule qu'il faut châtier. Vous osez défendre ce serpent ? Monsieur Tenchi n'a aucun besoin d'être défendu. Vos accusations à son sujet sont fausses. » Je vis mon bienfaiteur fermer les yeux et je compris que je venais de prononcer l'irréparable. « Vous osez prétendre que mes paroles sont fausses ? Vous êtes d'une grossièreté qui dépasse l'imagination. Je n'oserais jamais prétendre une chose pareille. Je pense seulement que Monsieur Tenchi vous a dit des choses fausses dans le but de m'innocenter. » L'air de penser qu'au point où nous en étions, il ne fallait plus rien redouter, mon compagnon d'infortune prit la parole. Toute la mortification du monde résonnait dans sa voix. « Je vous en supplie, ne lui en veuillez pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle est occidentale, elle est jeune. Elle n'a aucune expérience. J'ai commis une faute indéfendable. Ma honte est immense. En effet, vous n'avez aucune excuse !» hurla l'obèse. « Si grand soit mes torts, je dois cependant souligner l'excellence du rapport d'Amélie San et la formidable rapidité avec laquelle elle l'a rédigé. Là n'est pas la question. C'était à M. Saitama d'accomplir ce travail. Il était en voyage d'affaires. Il fallait attendre son retour. Ce nouveau beurre allégé est sûrement convoité par bien d'autres que nous. Le temps que M. Saitama rentre de voyage et rédige ce rapport, nous aurions pu être devancés. Est-ce que par hasard, vous remettriez en cause la qualité du travail de M. Saitama ? Absolument pas. Mais M. Saitama ne parle pas français et ne connaît pas la Belgique. il aurait rencontré beaucoup plus d'obstacles qu'à Mélissane. Taisez-vous. Ce pragmatisme odieux est digne d'un occidental. Je trouvais un peu fort que cela soit dit sans vergogne sous mon nez. Pardonnez mon indignité occidentale. Nous avons commis une faute, soit. Il n'empêche qu'il y a un profit à tirer de notre méfait. Monsieur Omochi s'approcha de moi avec des yeux terrifiants qui interrompirent ma phrase. Vous, je vous préviens, c'était votre premier et votre dernier rapport. Vous vous êtes mise dans une très mauvaise situation. Sortez, je ne veux plus vous voir. Je ne me le fis pas crier deux fois. Dans le couloir, j'entendis encore les hurlements de la montagne de chair et le silence contrit de la victime. Puis la porte s'ouvrit et M. Tenchi me rejoignit. Nous allâmes ensemble à la cuisine, écrasés par les injures que nous avions dû essuyer. « Pardonnez-moi de vous avoir entraîné dans cette histoire, » finit-il par me dire. « De grâce, M. Tenchi, ne vous excusez pas. Toute ma vie, je vous serai reconnaissante. Vous êtes le seul ici à m'avoir donné ma chance. C'était courageux et généreux de votre part. » Je le savais déjà au début, je le sais mieux depuis que j'ai vu ce qui vous est tombé dessus. Vous les aviez surestimés. Vous n'auriez pas dû dire que le rapport était de moi. » Il me regarda avec stupéfaction. « Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Rappelez-vous notre discussion. Je comptais en parler en haut lieu à M. Haneda avec discrétion. C'était ma seule chance de parvenir à quelque chose. En le disant à M. Omochi, nous ne pouvions que courir à la catastrophe. Alors, c'est M. Saito qui l'a dit au vice-président. Quel salaud, quel imbécile! Il aurait pu se débarrasser de moi en faisant mon bonheur, mais non, il a fallu qu'il... Ne dites pas trop de mal de M. Saito. Il est mieux que vous ne le pensez. Ce n'est pas lui qui nous a dénoncés. J'ai vu le billet posé sur le bureau de M. Omochi. J'ai vu qu'il l'a écrit. M. Saitama? Non. Faut-il vraiment que je vous le dise? Il le faut. Il soupira. Le billet porte la signature de Mademoiselle Mori. Je reçus un coup de massue sur la tête. Fubuki? C'est impossible. Mon compagnon d'infortune se tut. « Je n'y crois pas, » repris-je. « C'est évidemment ce lâche de Saito qui lui a ordonné d'écrire ce billet. Il n'a même pas le courage de dénoncer lui-même. Il délègue ses délations. Vous vous trompez sur le compte de M. Saito. Il est coincé, complexé, un peu obtus, mais pas méchant. Il ne nous aurait jamais livrés à la colère du vice-président. Fubuki serait incapable d'une chose pareille. » M. Tenchi se contenta de soupirer à nouveau. « Pourquoi aurait-elle commis une chose pareille ?» continuai-je. « Elle vous déteste ?»« Oh non, ce n'est pas contre moi qu'elle l'a fait. »« En définitive, cette histoire vous nuit plus qu'à moi. »« Moi, je n'y ai rien perdu. »« Vous, vous y perdez des chances d'avancement pour très, très longtemps. »« Enfin, je ne comprends pas. »« Elle m'a toujours témoigné des marques d'amitié. »« Oui, aussi longtemps que vos tâches consistaient à avancer les calendriers » et à photocopier le règlement du club de golf. Il était pourtant invraisemblable que je lui prenne sa place. En effet, elle ne l'a jamais redouté. Mais alors, pourquoi m'a-t-elle dénoncé? En quoi cela la dérangeait-il que j'aille travailler pour vous? Mademoiselle Mori a souffert des années pour obtenir le poste qu'elle a aujourd'hui. Sans doute a-t-elle trouvé intolérable que vous ayez une telle promotion après 10 semaines dans la compagnie Yumimoto. Je ne peux pas le croire. Ce serait tellement misérable de sa part. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup souffert pendant ses premières années ici. Et du coup, elle veut que je subisse le même sort. C'est trop lamentable. Il faut que je lui parle. Le croyez-vous vraiment? Bien sûr! Comment voulez-vous que les choses s'arrangent si on n'en parle pas? Tout à l'heure, vous avez parlé à M. Omochi quand il nous abreuvait d'injures. Avez-vous l'impression que les choses s'en sont trouvées arrangées? Ce qui est certain, c'est que si on ne parle pas, il n'y a aucune chance de régler le problème. Ce qui me paraît encore plus certain, c'est que si on en parle, il y a de sérieux risques d'aggraver la situation. Rassurez-vous, je ne vous mêlerai pas à ces histoires. Mais il faut que je parle à Fubuki. Sinon, j'en aurai une rage de dents. Mademoiselle Maury accueillit ma proposition avec un air de courtoisie étonnée. Elle me suivit. La salle de réunion était vide. Nous nous y installâmes. Je commençai d'une voix douce et posée. « Je pensais que nous étions amis. Je ne comprends pas. »« Que ne comprenez-vous pas ? » ?»« Allez-vous nier que vous m'avez dénoncé ?»« Je n'ai rien à nier. J'ai appliqué le règlement. » Le règlement est-il plus important pour vous que l'amitié ? Amitié est un bien grand mot. Je dirais plutôt bonne relation entre collègues. Elle proférait ces phrases horribles avec un calme ingénu et affable. Je vois. Pensez-vous que nos relations vont continuer à être bonnes suite à votre attitude ? Si vous vous excusez, je n'aurai pas de rancune. Vous ne manquez pas d'humour, Fubuki. C'est extraordinaire. Vous vous conduisez comme si vous étiez l'offensé alors que vous avez commis une faute grave. J'eus le tort de sortir une réplique efficace. C'est curieux. Je croyais que les Japonais étaient différents des Chinois. Elle me regarda sans comprendre. Je repris. Oui. La délation n'a pas attendu le communisme pour être une valeur chinoise. Et encore aujourd'hui, les Chinois de Singapour, par exemple, encouragent leurs enfants à dénoncer leurs petits camarades. Je pensais que les Japonais, eux, avaient le sens de l'honneur. Je l'avais certainement vexée, ce qui constituait une erreur de stratégie. Elle sourit. Croyez-vous que vous soyez en position de me donner des leçons de morale ? À votre avis, Fubuki, pourquoi ai-je demandé à vous parler ? Par inconscience. Ne pouvez-vous imaginer que ce soit par désir de réconciliation ? Soit. « Excusez-vous, et nous serons réconciliés. » Je soupirai. « Vous êtes intelligente et fine. Pourquoi faites-vous semblant de ne pas comprendre ? Ne soyez pas prétentieuse. Vous êtes très facile à cerner. Tant mieux. En ce cas, vous comprenez mon indignation. Je la comprends et je la désapprouve. C'est moi qui avais des raisons d'être indignée par votre attitude. Vous avez brigué une promotion à laquelle vous n'aviez aucun droit. » Admettons, je n'y avais pas droit. Concrètement, qu'est-ce que cela pouvait vous faire ? Ma chance ne vous lésait en rien ? J'ai 29 ans. Vous en avez 22. J'occupe mon poste depuis l'an passé. Je me suis battue pendant des années pour l'avoir. Et vous ? Vous imaginiez que vous alliez obtenir un grade équivalent en quelques semaines ? C'est donc ça ? Vous avez besoin que je souffre ? Vous ne supportez pas la chance des autres ? C'est puéril. Elle eut un petit rire méprisant. Et aggraver votre cas comme vous le faites, vous trouvez que c'est une preuve de maturité ? Je suis votre supérieure. Croyez-vous avoir le droit de me parler avec cette grossièreté ? Vous êtes ma supérieure, oui. Je n'ai aucun droit, je sais. Mais je voulais que vous sachiez combien je suis déçue. Je vous tenais en si haute estime. Elle eut un rire élégant. Moi, je ne suis pas déçue. Je n'avais pas d'estime pour vous. Le lendemain matin, quand j'arrivai à la compagnie Yumimoto, Mademoiselle Maury m'annonça ma nouvelle affectation. Vous ne changez pas de secteur puisque vous travaillerez ici même, à la comptabilité. J'eus envie de rire. Comptable, moi ? Pourquoi pas trapéziste ? Comptable serait un bien grand mot. Je ne vous crois pas capable d'être comptable, dit-elle avec un sourire apitoyé. Elle me montra un grand tiroir dans lequel étaient entassées les factures des dernières semaines. Puis elle me désigna une armoire où étaient rangés d'énormes registres qui portaient chacun le sigle de l'une des 11 sections de Yumimoto. Votre travail sera on ne peut plus simple et donc tout à fait à votre portée, m'expliqua-t-elle avec une expression pédagogique. Vous devrez d'abord classer les factures par ordre de date. Ensuite, vous déterminerez pour chacune de quelle section elle dépend. Prenons par exemple celle-ci. 11 millions pour de l'emmental finlandais. Tiens, quel amusant hasard, c'est la section produits laitiers. Vous prenez le facturier DP et vous recopiez dans chaque colonne la date, le nom de la compagnie, le montant. Quand les factures sont consignées et classées, vous les rangez dans ce tiroir-là. Il fallait reconnaître que ce n'était pas difficile. Je manifestais mon étonnement. Ce n'est pas informatisé ? Si. À la fin du mois, Monsieur Onagi introduira toutes les factures dans l'ordinateur. Il lui suffira alors de recopier votre travail. Cela lui prendra très peu de temps. Les premiers jours, j'avais parfois des hésitations quant au choix des facturiers. Je posais des questions à Fubuki qui me répondait avec une politesse agacée. « Reming Limited, qu'est-ce que c'est ?»« Métaux non ferreux, section MM. »« Gunzer GmbH, c'est quoi ?»« Produits chimiques, section CP. » Très vite, je connus par cœur toutes les compagnies et les sections desquelles elles ressortissaient. La tâche me parut de plus en plus facile. Elle était d'un ennui absolu, ce qui ne me déplaisait pas, car cela me permettait d'occuper mon esprit à autre chose. Ainsi, en consignant les factures, je relevais souvent la tête pour rêver en admirant le si beau visage de ma dénonciatrice. Les semaines s'écoulaient et je devenais de plus en plus calme. J'appelais cela la sérénité facturière. Il n'y avait pas tant de différence entre le métier de moine copiste au Moyen-Âge et le mien. Je passais des journées entières à recopier des lettres et des chiffres. Mon cerveau n'avait jamais été aussi peu sollicité de toute sa vie et découvrait une tranquillité extraordinaire. C'était le zen des livres de comptes. Je me surprenais à penser que si je devais consacrer 40 années de mon existence à ce voluptueux abrutissement, je n'y verrais pas d'inconvénient. Dire que j'avais été assez sotte pour faire des études supérieures. Rien de moins intellectuel pourtant que ma cervelle qui s'épanouissait dans la stupidité répétitive. J'étais vouée aux ordres contemplatifs, je le savais à présent. Noter des nombres en regardant la beauté, c'était le bonheur. Fubuki avait bien raison. Je me trompais de route avec M. Tenchi. J'avais rédigé ce rapport pour du beurre, c'était le cas de le dire. Mon esprit n'était pas de la race des conquérants, mais de l'espèce des vaches qui paissent dans le pré des factures en attendant le passage du train de la grâce. Comme il était bon de vivre sans orgueil et sans intelligence. J'hibernais. À la fin du mois, M. Onagi vint informatiser mon travail. Il eut fallu 2 jours pour recopier mes colonnes de chiffres et de lettres. J'étais ridiculement fière d'avoir été un efficace maillon de la chaîne. Le hasard, ou fût-ce le destin, voulut qu'il gardât pour la fin le facturier CP. Comme pour les 10 premiers livres de compte, il commença par tapoter son clavier sans broncher. Quelques minutes plus tard, je l'entendis s'exclamer « Je n'y crois pas, je n'y crois pas !» Il tourna les pages avec de plus en plus de frénésie. Puis il fut pris d'un fou rire nerveux qui peu à peu se mua en une théorie de petits cris saccadés. Les 40 membres du bureau géant le regardèrent avec stupéfaction. Je me sentais mal. Fubuki se leva et courut jusqu'à lui. Il lui montra de très nombreux passages du facturier en hurlant de rire. Elle se retourna vers moi. Elle ne partageait pas l'hilarité maladive de son collègue. Blême, elle m'appela. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda-t-elle sèchement en me montrant l'une des lignes incriminées. Je lus. « Eh bien, c'est une facture de la GmbH qui date de... La GmbH » s'emporta-t-elle. Les 40 membres de la section comptabilité éclatèrent de rire. Je ne comprenais pas. « Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la GmbH ?» demanda ma supérieure en croisant les bras. « C'est une société chimique allemande avec laquelle nous traitons très souvent. » Les hurlements de rire redoublèrent. « N'avez-vous pas remarqué que GmbH est toujours précédé d'un ou plusieurs noms ?» continua Fubuki. « Oui, c'est, j'imagine, le nom de ces diverses filiales. J'ai jugé bon de ne pas encombrer le facturier avec ces détails. » Même M. Saito, tout coincé qu'il fût, laissait libre cours à son hilarité grandissante. Fubuki, elle, ne riait toujours pas. Son visage exprimait la plus terrifiante des colères contenues. Si elle avait pu me gifler, elle l'eût fait. D'une voix tranchante comme un sabre, elle me lança. « Idiote ! Apprenez que GmbH est l'équivalent allemand de l'anglais Limited, du français SA. Les compagnies que vous avez brillamment amalgamées sous l'appellation GmbH n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est exactement comme si vous vous étiez contenté d'écrire Limited pour désigner toutes les compagnies américaines, anglaises et australiennes avec lesquelles nous traitons. Combien de temps va-t-il nous falloir pour rattraper vos erreurs ? » Je choisis la défense la plus bête possible. Quelle idée, ces Allemands, de choisir un sigle aussi long pour dire SA. C'est ça. C'est peut-être la faute des Allemands si vous êtes stupide. Calmez-vous, Fubuki. Je ne pouvais pas le savoir.
Vous ne le pouviez pas. Votre pays a une frontière avec l'Allemagne et vous ne pouviez pas savoir ce que nous qui vivons à l'autre bout de la planète nous savons. Je fus sur le point de dire une horreur que, grâce au ciel, je gardais pour moi. La Belgique a peut-être une frontière avec l'Allemagne, mais le Japon, pendant la dernière guerre, a eu bien plus qu'une frontière en commun avec l'Allemagne. Je me contentais de baisser la tête, vaincue. Ne restez pas planté là. Allez donc chercher les factures que vos lumières ont classées en chimie depuis un mois. En ouvrant le tiroir, j'eus presque envie de rire en constatant que, suite à mes rangements, le classeur des produits chimiques avait atteint des proportions hallucinantes. Monsieur Ounagi, Mademoiselle Maury et moi nous mîmes au travail. Il nous fallut 3 jours pour remettre en ordre les 11 facturiers. Je n'étais déjà plus en odeur de sainteté quand éclata un événement encore plus grave. Le premier signe en fut un tremblement dans les grosses épaules du brave Ounagi. Cela voulait dire qu'il allait commencer à rigoler. La vibration atteignit sa poitrine, puis son gosier. Le rire jaillit enfin et j'eus la chair de poule. Fubuki, déjà blême de rage, demanda « Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?» Monsieur Ounagi lui montra d'une part la facture et d'autre part le livre de compte. Elle cacha son visage derrière ses mains. J'eus envie de vomir à l'idée de ce qui m'attendait. Ils tournèrent ensuite les pages et pointèrent diverses factures. Fubuki finit par m'empoigner par le bras. Sans un mot, elle me montra les montants que mon écriture inimitable avait recopiés. « Dès qu'il y a plus de 4 zéros d'affilée, vous n'êtes plus fichu de copier correctement. Vous rajoutez ou enlevez à chaque fois au moins 1 zéro. »« Tiens, c'est vrai. Est-ce que vous vous rendez compte? Combien de semaines va-t-il nous falloir maintenant pour repérer vos fautes et les corriger? Ce n'est pas facile, tous ces zéros qui se suivent. Taisez-vous !» En me tirant par le bras, elle m'entraîna vers l'extérieur. Nous entrâmes dans un bureau vide dont elle ferma la porte. « Vous n'avez pas honte ?»« Je suis désolée, » dis-je lamentablement. « Non, vous ne l'êtes pas. Croyez-vous que je sois dupe? C'est pour vous venger de moi que vous avez commis ces erreurs inqualifiables. Je vous jure que non. Je le sais bien. Vous m'en voulez tant de vous avoir dénoncé au vice-président pour l'affaire des produits laitiers que vous avez décidé de me ridiculiser publiquement. » Mais c'est moi que je ridiculise, pas vous. Je suis votre supérieur direct. Et tout le monde sait que c'est moi qui vous ai donné ce poste. C'est donc moi qui suis responsable de vos actes. Et vous le savez bien. Vous vous conduisez aussi bassement que les autres occidentaux. Vous placez votre vanité personnelle plus haut que les intérêts de la compagnie. Pour vous venger de mon attitude envers vous, vous n'avez pas hésité à saboter la comptabilité de Yumimoto, sachant pertinemment que vos torts retomberaient sur moi. Je n'en savais rien. Je n'ai pas commis ces erreurs exprès. Allons, je n'ignore pas que vous êtes peu intelligente. Cependant, personne ne pourrait être assez stupide pour faire de pareilles fautes. Si ? Moi ? Arrêtez, je sais que vous mentez. Fubuki, je vous donne ma parole d'honneur que je n'ai pas mal recopié exprès. L'honneur ? Qu'est-ce que vous y connaissez à l'honneur ? Elle rit avec mépris. Figurez-vous que l'honneur existe aussi en Occident. Et vous trouvez honorable d'affirmer sans vergogne que vous êtes la dernière des imbéciles. Je ne pense pas que je sois si bête. Il faudrait savoir. Vous êtes soit une traîtresse, soit une demeurée. Il n'y a pas de troisième possibilité. Si, il y en a une. C'est moi. Il y a des gens normaux qui se révèlent incapables de recopier des colonnes de chiffres. Au Japon, ce genre de personnes n'existe pas. Qui songe à contester la supériorité japonaise ? Dis-je en prenant un air contrit. Si vous apparteniez à la catégorie des handicapés mentaux, il fallait me le dire au lieu de me laisser vous confier cette tâche. Je ne savais pas que j'appartenais à cette catégorie. Je n'avais encore jamais recopié de colonne de chiffres de ma vie. C'est quand même curieux ce handicap. Il ne faut aucune intelligence pour retranscrire des montants. Précisément, je crois que c'est le problème des gens de mon espèce. Si notre intelligence n'est pas sollicitée, notre cerveau s'endort. D'où mes erreurs. Le visage de Fubuki quitta enfin son expression de combat pour adopter un étonnement amusé. Votre intelligence a besoin d'être sollicitée. Que c'est excentrique. C'est on ne peut plus ordinaire. Bon, je vais réfléchir à un travail qui solliciterait l'intelligence, répéta ma supérieure, qui semblait se délecter de cette façon de parler. Entre-temps, puis-je aller aider M. Ounagi à corriger mes fautes ? Surtout pas. Vous avez commis assez de dégâts comme ça.
J'ignore combien de temps il fallut à mon malheureux collègue pour établir l'ordre dans les facturiers défigurés par mes soins. Mais il fallut 2 jours à Mademoiselle Maury pour trouver une occupation qui lui parut à ma portée.